ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, nous passerons une heure avec Nathalie Rodrigue. Elle est présidente de la coalition Priorité Cancer au Québec. Diplômée en technique de laboratoire médical en 1996, Nathalie a obtenu un certificat en gestion des organisations en 2009 et un certificat en leadership du changement en 2013 à l'Université Laval. Présidente de l'Ordre professionnel des technologies médicaux du Québec depuis 2007 et vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec depuis mai 2011, elle a toujours été soucieuse de l'amélioration de la qualité de la pratique professionnelle et de la protection du public. Elle est présidente de coalition depuis depuis 2012. Elle a contribué à donner une voix forte et à défendre les personnes touchées par le cancer et nous la recevons tout de suite après. Madame Rodrigue, bienvenue dans nos studios de Canal M. Vous
Bonjour.
Allez bien?
Oui, très bien, merci.
Alors, une femme très dynamique.
On l'espère, oui, en tout cas. Je déborde d'énergie et j'aime ce que je fais. Donc,
Vous avez toujours été comme ça?
Il paraît.
Oui, déjà. Parlez-moi de votre enfance, parce que je vois beaucoup de Québec dans le CV, mais je ne sais pas si vous êtes native de là ou vous êtes retrouvée là-bas pour étudier. Racontez-moi un peu.
Bien, je suis native de Lauzon, donc 31 rue du Vieux-Fort, Lauzon. Comme j'étais très tannante quand j'étais petite, mes parents m'avaient appris mon adresse dès que j'ai su parler parce que je me sauvais.
Ah ouais?
Oui. J'allais chez les voisins manger une pomme, boire un verre de lait, puis j'étais amie avec tout le monde dans la rue.
C'est vrai. Donc, la première chose que vous avez apprise par cœur, c'est votre adresse.
Parce c'est que en si plein jamais... ça et le Alors, numéro donc, de téléphone.
Donc, très sociable.
Très sociable, oui. Okay. Ma mère disait à chaque fois que je me retournais, la porte était ouverte, tu t'étais sauvée ou tu avais ouvert la fenêtre du salon, puis tu étais passée par la fenêtre. Puis là, il fallait que je fasse 3-4 maisons avant de te retrouver.
OK. Alors, toujours intéressée par ce qui se passe à l'extérieur, de parler avec les gens plutôt que de grimper dans les arbres, comme on dit. C'est-à-dire que des fois, il y en a des enfants qui se sauvent de la maison pour aller... Justement, aller dans la nature, mais vous, j'ai l'impression
j'allais
que...
J'allais faire mon social, il paraît.
Ah oui? Alors, vous alliez faire votre social.
C'est ça, j'allais chez les voisins, puis jasais avec eux autres.
Bon, et vos parents étaient issus de quel milieu?
Mon père est natif de Manville, en Abitibi. Donc, son père travaillait sur les chantiers, il faisait partie des personnes qui ont défriché l'Abitibi. Donc, des chantiers aussi hydroélectriques à l'époque, et travaillait comme bûcheron. Et du côté de ma mère, ma mère est native de Saint-David et mon grand-père avait des terres, des fermes, et il y avait une épicerie-boucherie aussi. Ils se sont rencontrés parce que la mère de mon père est décédée et du côté de mon père, ils se sont ramassés chez les Sœurs Grises à l'orphelinat et plus tard, mon père est allé vivre chez une de ses tantes, dont son cousin était le frère de ma mère. Puis ils ont fini par se rencontrer lorsque ma mère avait 16 ans et mon père 18.
Belle histoire.
Et ils sont toujours ensemble.
Ça, c'est encore plus beau.
Oui.
Alors. Et vous, étant petite, est-ce que vous aimiez l'école? Là, on a vu le côté social, que vous alliez parler avec tout le monde. Vous aimiez l'école?
Je détestais pas l'école, mais je me fâchais vite, puis je devenais très tannée parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Ma mère me disait que j'arrivais en pleurant à la maison en disant « épelle, épelle, épelle », puis que j'étais fâchée parce qu'on recommençait toujours les mêmes mots, puis que moi, j'espérais toujours qu'on puisse, que je puisse sauter une année, mais quand je suis arrivée à l'école dans les années 70, ça se faisait plus sauter une année, puis on était avec la méthode du sablier où on désapprenait à écrire, et puis... En tout cas, je pense que j'avais hâte de finir l'école, j'avais hâte de travailler.
Donc, ça n'allait pas assez vite à votre goût?
Ça n'allait pas assez vite, définitivement.
Votre adolescence, est-ce qu'elle était autant rebelle, un petit peu rebelle, j'ai l'impression?
Plus renfermée, pas. Je jouais au ballon-ballet, j'étais dans les cadets, je m'impliquais socialement, mais en même temps, c'est une période que je ne voudrais pas revivre. Dans ma tête, c'était noir. Je trouvais que... Les années avançaient pas assez vite. J'avais hâte d'être autonome. J'ai commencé à travailler à temps plein des étés. J'avais 13 ans. Le premier été, j'ai gardé 3 enfants, dont une aux couches. Ensuite, je suis partie dans les cadets. Donc, je quittais à 14-15 ans. Je suis partie dans des camps d'été. À 16 ans, je suis allée travailler à Toronto, garder des enfants et apprendre l'anglais. Et je commençais le cégep. J'avais pas encore 17 ans. Je suis partie en appartement. Donc... Et là, j'ai trouvé que ça commençait à être intéressant. Je faisais mes affaires. J'ai commencé à travailler des soirs de 5 à 9 pendant mes cours au cégep et j'ai toujours eu 2-3 activités comme ça.
Et est-ce que vous aviez un rêve de vous dire plus tard « je serai » ou « je ferai » ou « j'aimerais faire » ?
Non, c'était plutôt le contraire. Il y a trop d'affaires que j'essayais qui fonctionnaient que je ne savais pas. Je ne savais pas vers quoi m'en aller. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai fait 2 ans en technique policière. Pour me rendre compte que finalement, je voudrais pas être police, ça m'a donné finalement un deck en sciences humaines avec maths. Je suis allée sur le marché du travail, je suis retournée, j'ai fait une session et demie en technique infirmière. Et lorsque je suis arrivée en stage à l'Hôtel Dieu de Québec, je me suis dit, oh non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, j'ai arrêté.
Ah, quand même! Vous êtes alors donc policière, technique infirmière.
Oh oui, je me cherchais.
Vous allez loin quand même, là, dans le sens que vous terminez, parce qu'il y a des gens qui prennent un chemin. Mm-hmm. Et qui, au bout de 2 mois, disent oh « non, ça m'intéresse pas », mais vous allez jusqu'à obtenir les diplômes?
En technique infirmière, j'ai pas obtenu de diplôme.
Mais comme policière?
J'ai fait 2 ans, donc j'ai eu un DEC en sciences humaines avec maths, mathématiques.
Okay.
Donc, c'est ça, j'ai commencé en technique infirmière, je me suis dit « ça sera pas ma branche », donc j'ai arrêté, j'ai dit « je vais aller travailler, puis quand je saurai ce que je veux faire, ben on reviendra ». Ce qui fait que je me suis ramassée avec 2 amis à ouvrir un commerce de promotion de jeunes couturiers québécois ici à Montréal vers la fin des années 80. Et c'était très difficile à l'époque. Donc,
alors, la mode, là?
Oui, on est dans la mode. On s'essaie. Et puis, on avait quand même recruté Jean-Claude Poitras qui sélectionnait nos jeunes, couturiers, donc bénévolement en plus. Donc, j'avais peut-être des dons de vendeuse à l'époque quand
même. Donc, il y avait ce côté quand même. Là vous parlez infirmière, ensuite la mode.
Oui, et on a fait faillite finalement. Et je me suis ramassée. J'ai été 2 ans par la suite débardeur au port de Montréal. Et j'ai travaillé à peu près dans les 6 derniers mois que j'ai été à Montréal. Je travaillais au port et je travaillais aussi comme conseillère minceur chez Nutrisystem.
Votre parcours, il est vraiment...
Il n'est pas linéaire.
Non, il n'est pas linéaire. Ça fait vraiment sa part dans plusieurs directions. Je ne dirais pas de tous les sens pour être péjoratif, mais ça va vraiment dans tous les sens.
Ah oui. Quand on dit que quelqu'un se cherche, là, c'est pas vraiment où est sa voie.
Alors finalement, deux travail à ce moment-là.
Okay. C'est ça. Après, je suis retournée à Québec et là, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Puis un an plus tard, à un moment donné, j'ai dit, là, il faut que je retourne à l'école. Je suis allée voir des programmes à l'université, au cégep. Et dans les années 90, les personnes qui terminaient avec un bac n'avaient souvent pas de travail. C'était pas la meilleure période pour travailler. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un diplôme d'études collégiales et je suis allée au cégep de Sainte-Foy en la technique de laboratoire médical. Et là, j'ai terminé mon DEC à 30 ans.
OK, technique, vous trouvez votre voie, là, finalement.
Là, je trouve quand même ma voie, la santé, tout ça. Et je travaillais en même temps au bar pendant que je faisais mon DEC, au bistrot L'Envers sur la rue du Campanile et au centre de recherche en cardiologie à l'hôpital Laval en physiologie coronarienne. Donc, j'avais deux emplois à temps partiel plus
3, finalement.
Oui, puis ça a toujours été comme ça, finalement, le restant de dans ma vie, là... Pas mal toujours comme ça. Quand j'ai terminé mon cours, 2 ans plus tard, j'ai commencé à travailler dans le CHUL, au CHUL à Québec. Mais je travaillais encore à l'hôpital Laval et je travaillais encore au bar. Donc, j'ai eu les 3 emplois jusqu'en 2001. Par la suite, je travaillais juste à l'hôpital, mais j'ai été recrutée pour prendre la présidence du conseil multidisciplinaire du CHUC. Mm-hmm. Et puis là, j'ai commencé à faire un peu plus de la politique.
Bon, là, plus de la politique. Là, quand vous commencez comme infirmière, on revient en arrière, non? Ça ne vous intéresse pas, mais par contre...
Domaine de la santé, les sciences...
C'est ça. Mm. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne cliquez pas comme infirmière et après, vous allez en études de laboratoire? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça change?
Je trouvais difficile psychologiquement le contact avec les patients, les personnes désemparées. Et j'étais peut-être pas prête à cette époque-là à faire face à cette douleur-là. Puis ça a changé depuis parce que là, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont touchées par le cancer directement et tous les drames qu'ils vivent.
C'est votre mission.
Mais à l'époque, j'étais pas prête.
Alors, on va écouter, vous savez qu'à l'émission, vous choisissez vos chansons. Et puis vous ne vous en tirez pas comme ça. Là. Moi, je ne la présente pas comme ça. Il y a toujours un contexte, il y a toujours un pourquoi, cette chanson. Alors, je l'annonce tout de même, puis vous allez me dire pourquoi. Les Rolling Stones, Paint It Black.
La raison, c'est que j'ai été élevée avec les Rolling Stones. À 5 ans, je voulais me marier avec Mick Jagger. Je m'endormais sur la musique des Rolling Stones, comme les autres chansons que je vous ai données aussi. Moi, j'ai toujours adoré le rythme et le son, le thème de la musique des années 70. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, que ce soit Paint It Black, Mick Jagger, ça a toujours été... J'ai jamais été une groupie, mais... Quand même, parmi mes chanteurs, c'est le chanteur.
Alors, si c'est à mettre dans votre voiture ou ailleurs...
Oui, j'ai ça sur mon petit Zoom.
quand vous voulez donner de l'énergie.
Oui.
Alors, on écoute ça.
I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
Alors, nous sommes en compagnie de Nathalie Rodrigue, présidente de la coalition Priorité Cancer au Québec. Madame Rodrigue, vous êtes allée voir les Stones?
Oui.
Oui.
Dans les années 90 à Québec, ils étaient venus au Colisée de Québec. Et puis, moi et un ami, on avait réussi à avoir des billets et ça a été une soirée extraordinaire.
Alors, on revient sur votre parcours d'étudiante. Tout à l'heure, vous nous disiez, bon, infirmière, j'étais pas encore prête à ça. Par contre, les études en laboratoire, ça se peaufine, ça se dessine. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est là que vous trouvez votre vocation?
Pas encore. C'est quelque chose qui m'a amené peut-être vers ma vocation parce que je pense que je suis quelqu'un qui est motivé, qui est rassembleur. Je veux que les choses s'améliorent. J'aime ça qu'on tire vers le haut et qu'on ne vise pas la moyenne.
Mm-hmm.
Alors...
D'ailleurs, étant petite, c'était ça aussi. J'ai l'impression que vous étiez fâchée.
Moyenne, j'ai,
quand vous avez dit « j'en ai marre », épelé, tout ça, votre mère, ça se dessinait aussi, là, comme ça.
Je pense que oui.
Ça n'allait pas assez vite, donc vous vouliez améliorer les choses. Alors ça se dessine, là, chez vous.
Là, quand j'ai terminé mes études en laboratoire médical, en technique de laboratoire médical, j'ai commencé à travailler au laboratoire d'hématologie et en banque de sang au CHUL. J'ai ensuite été transférée à l'hôpital Saint-François d'Assise, toujours dans le secteur hématologie. Et j'ai commencé aussi à travailler dans les cliniques externes pour faire les prélèvements sanguins.
OK.
Et là, je me rendais compte que juste en laboratoire, il me manquait le contact avec le public. Et pendant ce temps-là, je travaillais quand même toujours au bar. Mais juste en labo, j'aurais pas été capable parce qu'il faut que je voie du monde. Donc, c'est ça. À un moment donné, je travaillais de nuit à l'hôpital et j'ai une collègue de travail qui est en microbiologie qui vient me voir vers 1h30 du matin en me disant « Nathalie, on a besoin d'une présidence, une présidente au conseil multidisciplinaire du CHUC. » J'ai dit « C'est quoi ça? » Elle m'explique un peu. Elle dit « Ça regroupe excusez, les professionnels de la santé qui ne sont ni médecins dentistes ni infirmières. » mais qui œuvre auprès des patients. Alors, c'était à peu près 80 titres d'emploi dans le CHUC. C'est là que j'ai commencé à faire la différence entre l'ergothérapie et la physiothérapie.
Mm-hmm.
Et puis, c'est ça. J'ai posé quelques questions. Puis finalement, 3 semaines après, j'étais présidente du conseil multidisciplinaire. Et quelques mois plus tard, je m'impliquais au conseil d'administration de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
OK. Est-ce qu'il y avait des... Parce que, bon, en lisant votre parcours... Il y a souvent le mot injustice sociale. Est-ce que déjà à cette période-là, vous avez envie de sortir le bâton puis de dire « Eh oh, il faut que ça se passe autrement ». Est-ce qu'il y avait ça en vous?
Oui, mais surtout aussi travailler sur la qualité.
Mm.
Au lieu de peut-être parler du côté négatif des choses, c'est de travailler pour améliorer les choses. C'était vraiment beaucoup plus ce sur quoi je travaillais. Par contre, l'injustice, ça m'a toujours profondément dérangée. Puis, à un moment donné, quand j'étais au conseil multidisciplinaire du CHUC, il y a quelque chose qui m'avait profondément choquée. C'est que lorsque la présidente du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a quitté son poste, le conseil d'administration, tout le monde a applaudi. Puis on était 3 à partir. Il y avait la présidente du conseil des médecins dentistes et pharmaciens.
Les gens applaudissent.
Oui, pas pour dire qu'on est content que vous partiez, mais pour la féliciter
Merci.
Du travail qu'elle avait
Merci
fait.
Merci de replacer les choses. Parce que là, vous me connaissez un peu, moi. Quand il y a des choses comme ça, là. Bon,
oui, il faut clarifier.
Ah oui, tout à fait.
Par la suite, la présidente du conseil des infirmiers et infirmières, elle aussi, son mandat était terminé. Elle quittait et on lui a juste dit merci. Et quand moi aussi, il est venu le temps de dire, ben moi aussi, je m'en vais parce que j'avais été, je m'en revenais travailler à Montréal pour la présidence de mon ordre. Ça a été juste un merci aussi. Là, tu vois là comment les travailleurs de la santé sont considérés versus les médecins.
Mm-hmm.
Comment les gens les mettent sur un piédestal, alors que tout seul, ils ne seraient pas capables de faire le travail
c'est
qu'ils font.
C'est comme carrément des dieux, là.
Oui, c'est comme si nous autres, on était accessoires.
Ouais,
ça m'avait... Vraiment, ça m'avait insultée. J'étais vraiment fâchée. Je suis partie fâchée de mon poste à ce moment-là, sauf qu'à un moment donné, il faut en revenir. Mais j'ai dit, bon, bien, en tant que présidente de l'Ordre des technologistes médicaux, j'ai dit, j'espère que je vais pouvoir réussir à faire rayonner la profession pour que les gens comprennent que dans un hôpital, s'il n'y a pas de laboratoire, ça s'appelle un CHSLD.
Mm-hmm.
85% des diagnostics sont basés sur les analyses de laboratoire effectuées par les technologistes médicaux.
Tout à fait.
Donc, à un moment donné, ça serait bien qu'il y ait une reconnaissance aussi par rapport aux employés, aux personnes qui travaillent en imagerie médicale aussi. Oui. Tous les employés qui se donnent pour les patients, puis qu'on passe sous silence, qui sont toujours les autres.
Et le médecin est comme un dieu, là. Vu comme un dieu, on ne peut pas le contredire ni ouais. rien, poser des questions. C'est à peine s'il regarde, bon, pas tous, là, mais il y a certains médecins qui regardent à peine les patients.
Ah, oui, bien, à la Coalition Priorité Cancer, nous avons maintenant un comité patients survivants et il y a même des proches aidants qui en font partie. Ils font une tournée provinciale.
Alors, on va y arriver à ça.
Oui.
Donc là, vous commencez à avoir des titres. Vous dirigez les choses différemment. Par contre, vous n'êtes pas encore rendu là.
Bien, je suis arrivée à l'Ordre comme présidente au mois de juin 2007. Et pendant l'été, il y a eu une consultation de la Coalition Priorité Cancer sur les pistes d'orientation pour améliorer la lutte contre le cancer. Et mon ordre a participé à cette consultation-là. Suite à ça, j'ai été invitée à venir faire une présentation lors des États généraux en septembre 2007. Les mm-hmm. États généraux sur la lutte contre le cancer, mm-hmm. c'était au Palais des Congrès. Il y avait 1100 personnes à peu près. Et on m'avait dit, vous allez faire une présentation, mais en caméra, circuit fermé. Et... Alors moi, je pensais que j'irais dans une petite boîte, que je parlerais pendant une minute de la cytologie puis des pap tests, tout ça. Et finalement, c'était devant les 1100 personnes.
Ah bon?
Oui.
Alors, ben, vous l'avez su après, au moins, c'était
ouais,
mieux. Oui,
c'est ça, je t'ai rendue sur place, c'était trop tard.
Non, mais au moins, vous l'avez su après?
Bien, je l'ai su rendu là. Que
ah,
c'était
sur le truc, OK, oh, OK, oui, parfait.
Il n'était plus question de retourner en arrière. Et puis, après cette présentation-là, on est venu me voir pour me demander si notre ordre serait intéressé à devenir membre de la coalition. À l'époque, il y avait peut-être une douzaine d'organismes qui étaient mmh, membres. Mmh. Alors, j'ai dit, j'en parle à mon conseil d'administration. Et le conseil de l'ordre a accepté. Donc, nous sommes devenus membres en décembre 2007. Et après, ça a été toujours en s'accélérant. Je suis devenue porte-parole en février 2009. Deux mois après, c'était le scandale pour les marqueurs du cancer du sein, mm-hmm. Les HER2, ERPR, où des femmes avaient reçu des mauvais diagnostics.
Oui, je pense que vous avez réussi, mais on va en parler un petit peu plus tard, mm-hmm. parce qu'on va être dans le vif du sujet, mais quand même, il y a eu 20 000 mammographies.
C'est en 2010.
OK, donc deux dossiers. Oui. Mais bon, et la question, finalement... Il faut avoir une sensibilité parce que, bon, le cancer est là, est présent. Là, vous donnez vraiment tout votre temps à cette cause-là. Mais la question que tout le monde se pose, et moi la première, j'ai regardé, est-ce qu'il y a eu du cancer dans votre famille pour tout donner, votre énergie? Parce qu'il faut une sensibilité. Est-ce que vous étiez en train de regarder autour de vous, il y a plein de gens, est-ce qu'il y a eu du cancer dans votre famille?
Du côté de mon grand-père maternel... Lui et tous ses frères et sœurs sont décédés du cancer. Okay. Dans les frères et sœurs, les sœurs de ma mère ne sont pas mortes du cancer, mais ses frères, à peu près tous, sauf un d'emphysème. Un des frères de mon père est décédé à 50 ans aussi d'un cancer. Mon ex-conjoint, on s'est séparés, puis deux mois après, il apprenait qu'il y avait un cancer colorectal, mais avec métastase au foie. Et pendant des années, c'était un ou deux... Des amis proches, des personnes de la famille qui décédaient, mais souvent en bas de 60 ans. Ouais, des cancers colorectaux qui sont diagnostiqués beaucoup trop tard, ouais. alors que les médecins, même s'il n'y a pas de programme provincial, ouais. pourraient décider de faire passer un test de recherche de sang occulte dans les selles à leurs patients. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un programme provincial pour ça. Là. De toute façon,
alors,
ça
donc,
va être long
qu'il y en ait autour un. De vous, il y a des gens qui sont atteints, il y a des gens qui meurent. Et là, il y a comme une espèce... de flamme qui fait en sorte que là, ça se dessine de plus en plus.
Ça se dessine de plus en plus, et surtout aussi de la manière que certains sont décédés. Je regarde mon oncle qui était à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je suis allée le voir la veille, je suis partie de Québec, je suis allée le voir la veille de son décès finalement. Puis il était, au lieu d'avoir l'air d'un homme de 50 ans, il avait l'air d'un homme de 80 ans, magané. Et on a quand même décidé de l'opérer le lendemain à cœur ouvert. Donc, il est décédé sur la table d'opération. Ah, mais oui. Pourquoi on a fait ça? Ah, c'est de l'acharnement. C'est mm-hmm. totalement, c'est aberrant. Mon ex-conjoint, j'arrive chez lui. Encore là, il est décédé le lendemain. Il arrive une infirmière du CLSC qui dit il va avoir un lit adapté dans une semaine. Ben, j'ai dit, parce que vous ne l'avez pas bien regardé, là. J'ai dit, demain ou après-demain, c'est fini, lui. Oui. Et un autre de mes amis, encore là, 57 ans, il est décédé dans sa chambre, dans l'unité des Grands Brûlés à l'Enfant Jésus à Québec. Et là, tu as une personne dans la chambre qui essaie de survivre après des brûlures graves, qui est dans un lit à côté de quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer. C'est totalement inacceptable. Et moi, c'est des situations qui me fâchent, qui me choquent. Et quand on voit, là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de témoignages que nous avons à la coalition. Et c'est tellement choquant comment les personnes, parfois, sont traitées dans ce système. Là.
Complètement. La liste d'attente aussi. L'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées parce que, justement, ça n'a pas été diagnostiqué à temps. On entend, ça, vous l'entendez sûrement, là.
Mais il y a beaucoup de personnes.
Un stade 4, mais... alors que la personne a attendu pour avoir son premier rendez-vous. Et on sait très bien qu'à un stade 1, il y a des chances de survie. À un stade 4, c'est comme... Oubliez ça, là.
Stade 1, on peut guérir. Stade 4, on peut peut-être survivre.
On peut survivre. On n'est que dans la survie.
Oui. Ouais. On est beaucoup dans la survie, ouais. Puis les traitements sont plus durs, c'est plus difficile, c'est plus dispendieux aussi. Premièrement, si chaque personne pouvait avoir un médecin de famille, déjà là, ça aiderait. Ouais. Parce qu'on sait qu'entre 25 et 30 % des personnes n'ont pas de médecin de famille. Et parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui sont diagnostiqués du cancer à l'urgence. Une fois qu'ils ont mal partout, et etc. Il y a
que c'est presque trop tard, finalement.
C'est ça.
Parce que quand la personne commence à avoir trop mal, souvent, ce qu'il y a qui est complètement incroyable dans le cancer, que souvent, les gens n'ont pas de mots.
Oui, ils n'ont pas de mots pour en parler. Ils savent pas comment se démener dans le système de santé.
Ouais.
Et parfois, ils font face à des médecins qui ne reconnaissent pas qu'ils peuvent avoir autre chose.
Alors, vous prenez votre bâton de pèlerin. Quand est-ce que ça s'enclenche tout ça finalement, que vous arrivez à la présidence de la coalition?
Je suis, comme je vous disais, je suis devenue porte-parole en 2009. On a incorporé la coalition en OSBR, en organisme sans but lucratif, en avril 2010. Et là, on a formé un conseil d'administration. J'étais vice-présidente. Et en juin 2012, j'ai été élue à la présidence de la coalition.
Est-ce que ça vous a donné plus de force d'avoir des gens autour de vous qui sont décédés du cancer pour arriver à vos fins?
Je ne dirais pas que je voulais arriver à mes fins, mais je veux arriver à faire en sorte que des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas l'entourage ou la machine pour parler en leur nom, qu'on puisse nous le faire.
On revient après la pause, mesdames.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Alors, nous sommes en compagnie de Nathalie Rodrigue. On est vraiment, je vous posais avant la pause la question, est-ce que ça vous a donné, pas arriver à vos fins, mais plus de force pour représenter ces gens-là qui nous ont quittés, malheureusement?
Oui, mais ceux qui me donnent le plus de force, c'est ceux qui se battent présentement. Des fois, c'est un peu décourageant. On fait des actions, puis on voit qu'au ministère, ça bouge pas, c'est long. Mais quand on voit là, des jeunes personnes, je pense à Joanie Grenier, Junie Lévesque, jeune mère de famille, petite fille de 5 ans, cancer du sein métastatique, elle sait qu'elle ne guérira pas, mais elle ne sait pas pour combien de temps elle va en avoir. Puis là, je vois ces personnes-là qui s'impliquent à la coalition, qui travaillent à faire mieux connaître leurs problématiques. Je me dis, comment je pourrais me plaindre? Comment je peux rester indifférente à l'énergie qu'ils mettent? Je pense à Serge Dion, le président du comité patients survivants, qui a été atteint de 3 cancers et qui s'implique, qui fait une tournée provinciale. Je me dis, j'ai pas le droit de baisser les bras, là, même si parfois c'est décourageant, puis on a l'impression de recommencer la roue régulièrement.
Mais est-ce que c'est pas décourageant parce que c'est le système de santé qui fait que c'est encombré, que c'est long, c'est lourd à bouger, que finalement, les gens, on les prend pour des chiffres et non des humains. Est-ce que ça ne va pas dans cette sphère-là? Parce que ces gens-là qui sont atteints, vous avez dit aussi, c'est des exemples. Et c'est tellement lourd à déplacer. C'est frustrant, ça doit être frustrant, la longue, de travailler là-dedans.
Oui, c'est frustrant parce qu'on se dit comment ça se fait que les personnes qui sont dans le système... le voit pas, ça. Ouais. Pourquoi on accepte d'évoluer dans un système qui répond pas aux besoins des personnes qui sont malades, que ce soit le cancer ou les autres maladies chroniques? Mm-hmm. Tout le monde sait qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on dirait que personne ne le fait.
Ouais.
On engage plus de cadres. Ça en prend des cadres pour encadrer les pratiques, mais en même temps, il faut réfléchir à quels sont les besoins des patients, puis premièrement, leur parler puis leur demander. Ce qu'on fait très peu.
Ouais,
on les organise. Ouais. On ne veut pas que les patients disent leurs besoins puis comment ils aimeraient recevoir les services. Ça serait Ça serait vraiment ça, répondre aux besoins des patients, mais on le fait pas.
Et souvent, c'est la famille qui se bat. Parce que la famille est en train de se battre autour. On dit que quand il y a quelqu'un qui a le cancer, c'est toute la famille qui l'a. Et c'est vrai. Souvent, il y a un patient qui n'a plus de force. Et puis, il y a des injustices où c'est trop lent. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas bien. C'est que le système est lourd.
Le système est lourd. Puis, il y a une statistique vraiment dramatique pour les personnes, les familles de personnes atteintes du cancer. C'est au niveau des proches aidants. Présentement, il y a 30 % des proches aidants qui décèdent avant la personne qu'elles aident en cancer. Les personnes sont au bout du rouleau, ils n'ont pas de soutien. La personne qui a le cancer, qui s'adresse à son CLSC, elle se fait répondre, bien, nous autres, on ne vous fournira pas tel service parce que de toute façon, vous avez quelqu'un qui vous aide à la maison. Mais la personne qui aide, elle se ramasse avec des problèmes financiers, des fois des problèmes avec son emploi.
Elle ne peut pas être à deux endroits en même temps.
Puis c'est 24 heures sur 24.
Oui. Et ces personnes-là qui aident, qui s'épuisent finalement, est-ce qu'elles peuvent se retourner? Il y a des organismes qui existent.
Il y a certains organismes, mais
il faut les connaître aussi.
Il faut les connaître. On a l'Association des aidants naturels du Québec, on a le réseau Caregiver ici à Montréal, mais c'est ça, il faut qu'ils aient les moyens aussi de se faire connaître. Et la manière que sont financés les organismes communautaires, c'est très, très, très difficile. Ils ont à se battre contre des fondations d'hôpitaux pour chercher du financement. Ils n'ont pas les mêmes moyens, donc il y a beaucoup de difficultés.
Et le cancer fait des ravages. J'aime pas parler de chiffres, mais quels sont les chiffres au Québec?
Présentement, en 2014, ça va être près de 60 000 personnes qui vont recevoir un diagnostic de cancer au Québec et à peu près 22 000 qui vont en décéder. C'est très élevé. Et c'est des personnes qui, après ça, éprouvent... Les personnes qui survivent au cancer éprouvent beaucoup de difficultés à se retrouver un emploi parce que les assurances, c'est dur à avoir. Alors, les assurances collectives dans un milieu peuvent... L'employeur va dire, bien, entre un employé qui a eu un cancer et un autre qui est en santé, je vais choisir celui qui est en santé parce que la personne qui a eu le cancer, elle va aller voir son médecin 10 fois par année. Puis l'assurabilité, tu as un cancer à 20 ans, tu n'es plus assurable, comment tu fais pour acheter une maison? Ça poursuit après ça, là.
Donc, ça suit tout le long, là.
Ça suit tout le long. Il y a des gros déficits au niveau de la réadaptation aussi. Parce qu'en réadaptation, si une personne a subi une chirurgie puis elle a besoin d'avoir faire adapter sa maison en conséquence, etc., avant que le dossier se ramasse dans un centre de réadaptation, ça peut prendre des mois parce que même dans des CLSC, des personnes qui ne savent pas comment faire pour transférer un dossier.
Et il y a aussi, je sais que c'est dans un de vos dossiers, et tout le monde, tous ceux qui écoutent et qui sont atteints le savent, vraiment, les médicaments, je veux dire... On a été témoin de scènes incroyables que le médecin est avec sa calculatrice en disant à la patiente qui est atteinte d'un cancer au stade 4, écoutez-vous, madame, il vous reste tant d'années, je ne sais pas s'il est en train de faire un choix s'il allait donner à cette femme-là un médicament pour soigner son cancer ou pas. C'est inhumain. C'est inhumain
c'est
de faire ça. Ça arrive, paraît-il, tous les jours dans les hôpitaux où le médecin... est en train de calculer, de dire, ben, je ne sais pas si vous avez le droit à la pilule parce qu'il vous reste tant d'années. Tandis que, et en plus, ces médicaments, et ça c'est votre cheval de bataille, ben, ils ne sont pas remboursés pour la plupart.
Mais il y a beaucoup, depuis quelques années, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux reconnaît la valeur thérapeutique de médicaments, mais les refuse sous... c'est-à-dire conseille au ministre de les refuser sur une base d'une valeur pharmaco-économique. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas demander aux gens de donner pour la recherche, de marcher, de nager, de pagayer pour la recherche contre le cancer. Et on découvre des nouvelles molécules, puis on leur dit, bien, si vous êtes en Ontario, vous pouvez l'avoir, mais au Québec, vous ne l'aurez pas. On peut pas... Mais ça, c'est le message qu'on envoie présentement.
Ça arrive tout le temps,
là,
en ce moment.
C'est régulièrement. On a eu la chance, dans les dernières années, que le ministre Bolduc, quand il était à la Santé, et Dr. Hébert aussi... qui ont renversé les propositions de l'INAES et ont accepté le remboursement de certains médicaments. Cette année, le docteur Barrette a maintenu les décisions de l'INAES pour la liste du mois de juin, la même chose pour la liste du mois d'octobre, ce qui fait qu'on a plein de patients. Comme aujourd'hui, j'avais un courriel d'une jeune patiente dans la vingtaine, cancer du sein métastatique. Le médicament qui pourrait peut-être la prolonger de 15 mois, il n'est pas remboursé. Elle n'a pas d'assurance, elle ne peut pas se le payer.
Et ça, c'est combien, là, à peu près?
Ah, ben, c'est des, ça peut être des centaines de milliers de dollars parfois.
C'est ça, hein?
Mais en même temps, si la personne n'a pas d'effet secondaire, peut continuer à travailler, que les proches autour ne sont pas en arrêt de travail aussi, il y a une valeur qui est associée à ça. Puis si on donne un autre médicament, il faudrait peut-être calculer la différence entre les deux et non juste le prix, le coût unique du médicament. Moi, je ne suis pas une spécialiste en pharmacologie. Alors, quand on se fie à ce que l'Institut national dit si le médicament est bon ou pas bon. Mais après ça, la valeur pharmaco-économique, je ne sais pas jusqu'où on peut aller.
La valeur pharmaco-économique, mais la valeur humaine.
Oui, mais là, présentement...
On a l'impression qu'on est là-dedans, là.
Oui, pour beaucoup de médicaments...
Il y a un être humain à travers
oui,
ça, là.
Mais pour beaucoup de médicaments qui sont refusés, le message qu'on envoie aux personnes, c'est bien dommage, mais on ne te soignera pas. Tu n'as pas la bonne maladie, tu n'as pas le bon cancer. Puis de toute façon, au Québec, on le dit, hein, on peut mourir dans la dignité maintenant.
Alors, on te soigne pas parce que t'as attrapé...
T'as le mauvais cancer, puis il coûte trop cher à soigner.
OK.
Puis on a une disparité versus les provinces, mais maintenant, au Québec, on a une régionale. Pour un type de cancer, si tu vas à Québec, l'hôpital va accepter de le rembourser, puis si t'es à Montréal, ils vont le refuser. Fait que déjà là...
Mais déjà, c'est déjà comme...
Ça n'a pas de bon
c'est
sens.
Comme une multinationale pour quelqu'un qui est malade, hein, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que le patient ou la patiente qui a un cancer, il faut en plus qu'elle se batte avec ça.
Oui.
Au moment où elle a la chimio, où elle est en train de vomir sa chimio, on lui demande d'aller à la pharmacie puis revenir bredouille en disant ton médicament, c'est non, le 600 $ que tu viens de dépenser, on ne va pas te le rembourser.
Il y en a, regarde, on a le cas d'un patient qui s'est endetté de 20 000 $ pour avoir des traitements pour son lymphome. Il dit, je me suis acheté trois ans de vie. Mais il a discuté lui-même le prix avec l'industrie pharmaceutique. Et ça n'a comme pas de bon sens. Il y a des solutions qui existent. Dans les autres provinces, ils font des achats de groupe. Ils font des ententes de partage de risques pour faire baisser le coût des médicaments puis continuer la recherche, etc. Puis ici, il y a un entêtement, là.
Mais un entêtement
énorme.
À quoi? À rester comme
on
ça?
On ne sait pas. C'est comme si c'était...
À voir les gens disparaître?
Oui, puis on ne veut pas parler aux méchants de pharma. Puis au niveau du ministère, c'est l'enfer. Alors, t'as un Institut national d'excellence qui propose, qui recommande de négocier les prix et t'as des fonctionnaires du ministère de la Santé qui refusent parce que les pharma, c'est des méchants. Bon, on fait quoi? Quand c'est une industrie qui fait de la malbouffe, qui rend les gens malades avec sa nourriture et qui font une maison sur un terrain d'hôpital pour accueillir les parents, on applaudit. Quand c'est une industrie qui fait de l'argent en vendant des médicaments pour guérir les personnes malades, c'est la fin du monde. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Et ça, je trouve ça choquant parce qu'il y a des personnes qui en paient fortement le prix.
Alors, on va se déchoquer en écoutant une chanson. Mais ça va, on a besoin de cette colère-là, parce que sinon, si vous ne faisiez pas des colères comme ça, la société resterait telle qu'elle est. Et c'est important d'avoir des colères.
On dit, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben oui.
Non, je peux pas
bouger,
rester sans rien faire.
Faut bouger, puis vous êtes la preuve que vous faites bouger les choses, Nathalie Rodrigue. Alors, Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, pourquoi cette chanson?
Je trouve que c'est une de ses plus belles chansons, le crescendo qu'il y a là-dedans. Moi, je ne suis pas une musicienne, je joue la vache à Mayotte sur un piano et j'ai jamais rien compris aux notes. Mais je trouve que c'est quelque chose qui commence tout en douceur, puis plus ça avance, cette chanson-là, plus l'intensité augmente et ça finit comme dans une explosion j'aime...
C'est un petit peu comme l'entrevue que vous m'accordez aujourd'hui.
Ça. On
plus ça avance, plus on est dans le...
On s'enflamme.
On s'enflamme.
Et je trouve que ça me ressemble, pas par la voix, mais par la synergie de
par
la chanson.
Oui. On l'écoute.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellasses, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct. Nous recevons Nathalie Rodriguez, les présidents de la coalition Priorité Cancer au Québec. Et c'est un organisme qui chapeaute, en fin de compte, 54. Il y a 54 organismes différents œuvrant tous dans le cancer, mais ça va loin, là. Tout azimut, multiculturalisme, vraiment tout le monde est représenté.
C'est ça, 54 organismes, on a des personnes qui travaillent en recherche, des personnes dans les soins palliatifs, on a des associations professionnelles, des personnes qui donnent des soins aux personnes touchées par le cancer, organismes communautaires. On touche vraiment à tout. Il y a la FADOC, parce qu'on sait que le cancer quand même atteint beaucoup les personnes âgées. Il va y avoir le Conseil de la protection des malades, l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité en santé et services sociaux, Corporation VPH, pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus et tous les autres cancers associés au VPH. Donc, on est 54 personnes qui peuvent s'asseoir autour d'une table et se donner leur juste sur ce qui se passe directement sur le terrain.
Ça, c'est intéressant de dire ça, sur le terrain, sur ce qu'on discutait tout à l'heure, justement, ce qui se passe dans les hôpitaux, ce que le médecin dit, ce que... Alors, donc, des gens qui sont sur le terrain, donc, ils savent ce qui se passe.
Et c'est pour ça qu'on dit au ministre de la Santé qui passe que s'ils veulent avoir leur juste, appelez-nous, parce qu'on ne vous dira pas que tout va bien, Madame la Marquise. Et c'est pas normal qu'on aille en commission parlementaire comme la semaine dernière et qu'on apprenne au ministre Barrette que la directive du 450 versus le 514, c'est-à-dire de retourner les patients du 450 en région alors qu'ils ont toujours fait affaire avec un hôpital de Montréal... On dit publiquement que ça a été aboli, mais dans les faits, c'est pas vrai. Il y a un triage qui se fait. Mais le ministre ne l'a pas appris par la Direction québécoise de cancérologie. Il l'a appris par nous.
Heureusement que vous étiez là.
Ben oui, à quelque part. On sait ce qui se passe dans la réalité. On dit vraiment sur le terrain. Nous sommes terrain. Nous sommes informés par les personnes qui côtoient directement les personnes touchées par le cancer et non des fonctionnaires.
Alors, il y a un côté évidemment très, très politique parce que ça va de soi. Hein, c'est interrelié. Si on veut que les choses bougent, ben, il faut changer, il faut faire des lois, il faut encadrer. Vous avez eu vent de, en fait, compte qu'on voulait retirer les mammographies. Ça en est où? Parce qu'il y a deux écoles de pensée. Semble-t-il que... Et vous allez me dire si je me trompe, c'est plus logique d'avoir une mammographie pour savoir s'il n'y a pas un cancer. Mais ça en est où, cette histoire-là?
Bien, pour le moment, on n'en entend plus vraiment parler parce que le programme continue quand même de faire les mammographies de prévention, de dépistage. Et c'est sûr qu'il peut arriver d'avoir un faux positif puis d'avoir une biopsie peut-être pour rien. Mais moi, en tout cas, si je regarde personnellement, j'aimerais mieux avoir un faux positif puis qu'on me dise finalement c'est pas un cancer, c'est juste une petite kyste ou quelque chose comme ça, que de ne pas me faire dépister. Et si c'est un cancer, qu'on ne l'ait pas vu, et quand on le voit, il est rendu trop tard. Je veux dire, je pense que le risque est plus grand de ne pas se faire dépister que de se faire dépister.
Vous avez déposé un mémoire aussi en 2013?
J'arrive pas à me souvenir lequel.
Lequel? Vous en avez eu plusieurs.
C'est ça.
Vous êtes allé voir. sur la gestion et sur l'organisation, exactement. Et puis, qu'en est-il sur le registre du cancer?
Eh bien, ça, je pense que c'est une des choses les plus décevantes qu'on n'a pas réussi à faire au Québec. On sait que déjà, on cafouille encore avec le dossier patient, mais un registre du cancer, c'est vraiment un outil essentiel pour les cliniciens, les chercheurs, de connaître quel type de cancer sont diagnostiqués, dans quelle région, à quel stade, quel médicament fonctionne le mieux ou quel traitement, quel type de radiothérapie on donne, quel type de chirurgie, les taux de survie au cancer. Et présentement, dans le registre qu'on a, et d'ailleurs, il y a un rapport, il y a un dossier qui est sorti en octobre 2013, donc il y a quelques semaines, on nous a donné des données de 2010 qui ne servent absolument à rien. On est en retard. Ils collectent seulement des données, à savoir est-ce que c'est un homme, une femme, quel type de cancer, mais on n'a pas les stades, on n'a pas les taux de survie, on n'a pas les traitements. Donc, c'est complètement inutile, sauf pour faire des études épidémiologiques et des statistiques.
Donc, alors, il faut vous travailler là-dessus, parce que vous ne savez même pas s'en est
bien,
rendu
ce où. Ce qu'on constate sur le terrain, hier, nous avions un symposium sur les cancers rares. Alors, le docteur Lambert Busque, qui travaille à Maisonneuve-Rosemont, a monté avec d'autres hôpitaux puis d'autres cliniciens un registre sur les leucémies myéloïdes chroniques pour savoir où ils s'en vont avec ça. Parce que le registre national, finalement, il n'est pas accessible. Et c'est des données partielles qui ne servent absolument à rien pour les cliniciens et pour les patients.
Alors ça, c'est dans le carton bataille pour les prochains mois?
Ah, ça fait déjà... Je suis arrivée, comme je vous disais tout à l'heure, en 2007, et c'était déjà... Donc, l'un des chevaux de bataille, un des chevaux de bataille de la coalition.
Vous en avez beaucoup.
Je sais que mon karma, c'est d'apprendre à être patiente. Et franchement, il y a plein d'organismes qui m'aident.
À l'être.
Qui m'aident à l'être.
Oui, mais on a besoin de votre impatience parce que c'est avec cette impatience que les choses bougent.
Ben, on espère.
Si vous étiez trop patiente, là, ça irait pas.
Je pense que les gens qui me connaissent savent que... Je ne serais jamais capable d'être vraiment patiente.
Même quand mais une bonne patiente, oui. En terminant, remue-ménage. Alors, vous faites des sessions de remue-ménage.
Oui.
Racontez-nous comment ça se passe.
Cette année, on en a fait deux. Une au mois de mai avec le cancer et les jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle des 18-32 ans. Et un autre aussi sur les proches aidants. Mais le cancer et les jeunes, on en parle très peu. C'est peut-être 7000 personnes par année qui sont diagnostiquées. Alors, les services ne sont pas adaptés pour ces jeunes-là. Souvent, ça arrive, ils sont diagnostiqués aussi souvent avec des cancers très avancés parce que les médecins ne croient pas qu'ils ont le cancer. Ils pensent qu'ils vont faire une hypothyroïdie. Ils ne sont pas portés à
investiguer. Donc, ils sont mal diagnostiqués,
sont diagnostiqués très tard. Ça prend du temps. Là, c'est quand la personne, finalement, en plus de dire qu'elle est fatiguée, là, elle perd du poids, etc., là, on finit par dire... Ah, bien, peut-être que... Et là, on arrive avec des jeunes mères, des jeunes pères qui se sont confrontés à un cancer du cerveau, cancer de testicule, du sein métastatique, qui ont des jeunes enfants ou qui sont à l'école et qui, là, tout d'un coup, ne peuvent plus étudier parce qu'ils sont trop fatigués, les traitements sont trop difficiles. Et c'est quelque chose, après ça, qui les poursuit dans toute leur vie. On parlait de l'assurabilité, là. Ils deviennent qu'ils sont plus assurables. Alors, c'est vraiment difficile.
Dernière question, et non la moindre avant le jeu questionnaire. Vous prenez où votre énergie dans les moments de découragement quand, justement, ça ne va pas assez vite à votre goût? Nathalie Rodrigue.
Je ne sais pas trop. J'ai toujours dit que j'étais branchée direct en haut. Alors, des fois, je m'imagine que je suis sur le plus beau vaisseau spatial de l'univers, la Terre, puis que je me promène, puis que sans m'en rendre compte, à tous les jours, à toutes les années, je fais le tour du soleil, je me promène dans cet univers-là, puis je suis grandée aussi, je prends l'énergie de partout, mais c'est surtout aussi que je suis entourée de personnes qui veulent que les choses s'améliorent, qui veulent que les choses changent. Donc, je sais que je ne suis pas toute seule. Et s'il faut, on se battra encore pendant 20 ans, mais crime, à un moment donné, je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas un réveil collectif, que les gens vont arrêter d'attendre après les gouvernements, puis qu'ils vont se prendre en main, puis qu'ils vont arrêter de viser la moyenne, puis qu'ils vont vouloir aller au-dessus, qu'on soit les meilleurs. On est capable.
C'est une bonne parole, ça. Oui, alors, Nathalie Rodrigue, on fait une petite pause musicale, le temps de regarder pour le jeu questionnaire. Nathalie Rodrigue, les gens qui vous ont inspirée.
Il y en a beaucoup. C'est tellement... on parle souvent des personnes comme David Suzuki, Malala, des personnes qui se battent contre vent et marée pour essayer d'améliorer le sort des gens, de la Terre, etc. Mais aussi, comme je vous disais, des personnes avec qui je travaille à la Coalition Priorité Cancer et même à mon ordre professionnel, des personnes qui sont motivées, qui veulent que les choses avancent. Moi, je trouve ça extraordinaire et... Je sais pas, il y en a plein de personnes qui m'inspirent.
Vos mentors?
J'ai eu comme mentor Denis Simard, qui travaillait, entre autres, au centre de cardiologie à l'hôpital Laval, qui, à un moment donné, il était mon client au bar, entre autres, mais là, je lui dis, Denis, je m'en vais étudier en laboratoire médical. Il dit, viens me voir quand tu auras ton horaire, j'ai une job pour toi. Alors, et il a toujours organisé les horaires de chirurgie parce qu'on faisait de la recherche fondamentale. En fonction de mes horaires de l'école, c'était vraiment extraordinaire.
Vos livres?
Ah, je lis beaucoup. J'aime beaucoup les romans policiers. J'aime les romans d'aventure. J'aime aussi des romans comme... ou pas des romans, mais des histoires comme L'alchimiste de Paulo Coelho, le cahier de Gibran, etc. Mais je lis de tout, du Dan Brown. Présentement, je suis comme partie sur une série policière de Michael Connelly et... J'adore l'inspecteur Bosch.
Vos artistes préférés?
Je vous ai parlé tout à l'heure de Mick Jagger, des Rolling Stones, mais j'ai... Encore là, comment pas... Je ne sais pas trop, j'aime tellement plein d'affaires. Brel, Céline Dion... de la misère.
Et vos villes préférées? En terminant?
Mes villes préférées, mais là, je m'en vais à Paris dans une semaine. J'ai hâte de... pour des vacances et non pour le travail. Alors, c'est très intéressant. J'aime beaucoup Québec. Québec est une ville vraiment très belle. S'il pouvait faire un peu plus chaud, ça serait fantastique. New York. New York, j'ai trouvé que je suis allée une fois seulement, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un paradis des arts, etc.
Ça va avec votre énergie, la New York, là.
Probablement.
Si je peux me permettre. Alors, je vous remercie infiniment.
Ça me fait plaisir.
Merci d'avoir passé une heure avec nous et merci pour tout ce que vous faites pour tous ces gens qui sont atteints du cancer. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, à la réalisation de l'émission. À la recherche, c'était Christiane Campagna qui travaille avec moi. Et aux médias sociaux, Claudia Benoît. On se retrouve, mesdames, messieurs, la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Bye bye.